Alors, ecco a Sandrine Luigi du Conservatorio di Bastia, mais la première fois, enfin une des premières fois que j'ai vu Sandrine jouer de la guitare, c'était pour son examen final au CNSM de Paris, au conservatoire, voilà, le plus grand des conservatoires en France, elle y était. Et Norbert Paganelli, poète, il nous vient de Péri. Il a fait un long voyage. Et Norbert, alors, autant avec Sandrine, j'ai préparé un peu cet atelier, autant entre nous, on n'a pas vraiment préparé, mais ça fait des mois que tu me dis quand même que tu ne t'es pas aperçu que dans tes poésies, tu parlais de chant, enfin, de musique. Non, toujours pas. Et quand tu dis avocat, ça te fait avocat, etc.
C'est tout à fait exact. Mais vous savez, lorsqu'on crée, on ne sait pas exactement ce qu'on crée. Il y a des choses qui nous passent derrière la tête, quoi. Hein. Et c'est Denis Akrasou, que certains d'entre vous connaissent ici, qui s'est penché sur la poésie corse et sur mes textes, et qui m'a dit, mais c'est incroyable, il y a toujours une voix qui parle. Et tu parles souvent de musique. J'ai dit, moi ? Elle m'a dit, bah, regarde là. Eh bien, sono stato stomagato e ravir.
Psychanalysable.
Non, mais c'est la preuve, mais c'est la preuve que le meilleur commentateur d'un texte n'est pas celui qui l'a écrit. C'est le lecteur. Il y a quantité de choses qui nous échappent. Alors, ce que je voulais dire d'emblée, c'est que je me suis posé la question de ce que je pouvais bien faire dans ce colloque. Parce que moi, la musique, je suis béat devant les chanteuses, les chanteurs, les musiciens, les instruments, la musique. Mais je n'y comprends strictement rien. Mais rien de rien. Il y a deux domaines où je touche à peu près ma vie, c'est la peinture, le dessin et bon, tout ce qui s'écrit. Mais alors, la musique, c'est un monde qui m'est complètement étranger. Et pourtant, je n'arrête pas d'en parler dans mes textes.
Alors, le chant, c'est ce qu'il y a entre les consonnes. C'est le trait qui se tire dans la voyelle. C'est ce qu'on a en commun avec la poésie, c'est quand même le rythme intérieur. Quand vous entendez presque un peu votre voix qui fait le texte ou pas, sur la musicalité de la langue, sur le rythme.
Redéchard, encore lui, avait dit « Les mots qui surgissent disent de nous des choses que nous ne savons pas d'eux. » Et les mots qui surgissent, ils ne surgissent pas en fonction de leur sens, ils surgissent en fonction des sonorités. Vous savez, un jour, le père de Mozart le voyait jouer au piano. Il lui dit « Qu'est-ce que tu fais, Wolfgang ?» Et la réponse fut « Je cherche les notes qui s'aiment. » Bien, j'ai envie de dire, moi je cherche les mots qui s'aiment. Et lorsque un texte a surgi, je le laisse un petit peu reposer. Ça peut prendre du temps. Je reviens après. Et d'emblée, je me dis, mais ce mot-là, il n'est pas à sa place. C'est comme un mur en pierre sèche. On voit là, non, mais la pierre, là, elle ne va pas, il faut une autre pierre. Mais je me fous du sens, je vous assure, je me fous du sens réel du texte. C'est le mot qui ne va pas. Et le sens, c'est bien, vient après. Et parfois, je m'interroge sur ce que j'ai voulu dire exactement.
Voilà. Est-ce que tu peux nous dire aussi un mot de ta trajectoire, de ton lieu de naissance et du sujet de ta thèse ?
Je suis né il y a déjà assez longtemps, en 1954, à Tunis. J'y suis resté une vingtaine de jours, d'après ce qu'on m'a dit. Ma mère est tombée gravement malade et mes grands-parents maternels m'ont récupéré et j'ai été élevé à Sartène. Voilà, donc moi j'ai baigné dans l'ambiance corse très très tôt. J'ai appris le corse d'emblée, d'après ce qu'on me dit. J'étais capable de répondre parfois assez de manière impertinente aux grandes personnes en Corse, et je prenais des roustes, comme on disait à l'époque, c'était coutumier. Ensuite, l'autre question.
Le sujet de ta thèse.
Alors, ma thèse de sciences politiques s'intitulait « Recherche sur les origines et les fondements de la revendication nationalitaire ». Vous voyez, j'étais déjà...
Tu n'as pas abordé que la Corse.
Non, l'Occitanie, la Bretagne et d'autres régions. La question que je me posais, elle paraît toute bête, mais enfin, bon, elle n'est pas si bête que ça, au fond. Bon, j'avais une vingtaine d'années, à peu près. Voilà, je découvrais les premiers écrits nationalistes, tout ça. Je me dis, mais enfin, c'est, bon, si la Corse est une nation, il n'y a pas de problème. Il faut qu'elle ait son autonomie, et plus même encore. Mais malheureusement, une nation. Ah, alors là, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de réponse claire. Il n'y a pas de réponse claire. J'ai dit, bon, je vais approfondir la question. Je vais essayer de lire toute la littérature que je peux pour savoir si oui ou non, la Corse, la Bretagne, l'Occitanie sont des nations. La littérature de l'époque, je vous dis la littérature au sens large, hein, les écrits de sciences humaines, bien sûr. Hein, voilà, c'était ça ma préoccupation.
Et alors, on te laisse quelques minutes pour que tu puisses éventuellement chercher un tout petit extrait ou alors une citation du Kant au dialogue à Saint-Saoc.
Je m'en doutais,
Sandrine, tu m'as dit que tu avais revisité des mélodies corses ou que tu avais réinterprété des partitions, notamment d'Henri Thomas. Tu as fait ton cursus à Paris. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui en fonction du titre de notre colloque et du fait que tu sois revenu donc au Conservatoire de Bastia enseigner? Et que tu figures aussi en pédagogie dans le cursus du DE, etc.
Ok, bonjour à tous. Du coup, moi, mon parcours, c'est un parcours traditionnel de musique classique, si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire que j'ai découvert la guitare classique alors que mon premier professeur s'appelait Tony Santiago et jouait au Rata, du coup à Bastia. Et il m'a mis entre les mains un recueil de guitare classique, et c'est comme ça que je suis tombée dans le bain de la guitare classique. Je suis allée au conservatoire, et puis j'ai suivi les cursus des conservatoires différents jusqu'à Paris. Et puis après, c'est en revenant, en fait, quand je suis devenue enseignante à Bastia, que j'ai découvert la musique traditionnelle. En fait, pour le coup, j'étais vraiment très, très axée sur la guitare classique et sur la lecture de beaucoup de littérature de guitare classique. Et puis, j'ai aussi accompagné un groupe polyphonique féminin, Isouladine. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à arranger. Et puis, Tchoutcharé, là aussi, est arrivé, en fait, en arrangement pour guitare seule. Voilà. Et après, c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert un peu, même si je connaissais bien évidemment, mais toujours sous le prisme un peu classique. Donc, on va peut-être arrêter de parler et puis écouter Tchoutcharé, là, ce sera beaucoup plus simple.
Tout à fait, et comme ça tu prépares la réponse à la question suivante qui sera de... En fait, on a collaboré ensemble à la demande de Nicole Casalonga pour le Festival sur des chants et à la guitare et au chant du grand
Atahualpa Yupanqui.
Tu peux répéter?
Atahualpa Yupanqui.
Voilà. Et bon, même moi venant du violon classique, j'avais quand même un petit peu de mal avec la mesure, mais je me repérais quand même assez dans ses créations, puisque il n'était pas mesuré, enfin, au sens où je l'entends, il mettait beaucoup la voix en avant, donc la voix, le timbre, etc. Et donc ça m'avait beaucoup plu. Donc tu nous diras ce que tu peux retenir ou ce que tu peux faire passer dans ton enseignement de traditionnel ou pas et d'accompagnement des voix. Et on t'écoute.
Thank you.
pauvre, hein, on a vu. Puis en plus, ce que j'avais beaucoup apprécié chez toi, c'est que tout en finesse, en même temps, tu fais des percussions. Donc à chaque fois que tu, voilà, que tu joues des choses comme ça, avec beaucoup de finesse, tu fais des percussions et donc tu rends un petit peu de l'orchestre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette voix seule, et puis à un moment donné, la polyphonie, et les dissonances alors, et qui a fait l'arrangement?
Alors, ben, du coup, c'est ce que je disais, je suis partie de la mélodie, et puis après, aussi j'ai désaccordé la guitare aussi, pour créer une espèce d'ambiance, et c'est après coup que je me suis dit, mais bon, on s'éloigne beaucoup de la nane, c'est plus vraiment une berceuse, mais... Je me suis dit, c'est pas grave, parce qu'en fait, l'intérêt, mon postulat, je dirais, c'est que ben, c'est fait pour voyager. En fait, cette mélodie, elle est faite pour voyager. Et puis, c'est notre propre personnalité, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, voilà, donc c'est comme ça qu'apparaissent, du coup, les dissonances, le changement d'accordage, ce genre de choses. Mais après, justement, ce que disait Nicole aussi, Casalonga, tout à l'heure, c'est... Là, moi, je pars de l'idée de la mélodie, des notes, justement, les notes qui s'aiment, tout ça, ce dont on parlait tout à l'heure. Mais j'occulte probablement tout ce qui est la grammaire et les paroles, en fait, le sens aussi de la chanson. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est important de le dire avec humilité, parce que mon regard, c'est un regard plutôt sur l'émotion que me procure cette mélodie, son phrasé musical, sa respiration, parce qu'il y a beaucoup de respiration, de souffle en fait dans la musique traditionnelle. Tu disais que c'est non mesuré, mais en même temps c'est mesuré, donc c'est vrai que c'est difficile de par le prisme classique de passer justement, on perd des choses forcément, donc ça il faut en avoir conscience aussi, mais l'émotion sera là quand même.
Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à quand tu joues Thomas, si par exemple, parce que moi j'aurais tendance à t'encourager à faire plein de choses comme ça, parce que j'entends en plus la guitare corse, alors que de la guitare corse à un moment donné, voilà, on n'en peut plus, et que ce qu'on a aujourd'hui, c'est plus vraiment de la guitare corse. Donc on a cet aspect rétro là, et en même temps, c'est vraiment un souvenir d'un membre du peuple, quoi. Je dirais que là, on va vers le passé.
Mais peut-être aussi parce que, alors j'ai peut-être une image un peu utopique, mais la guitare, c'est un instrument d'accompagnement, souvent, pour accompagner le chant, mais c'est aussi un instrument à part entière, c'est un instrument polyphonique. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une possibilité de créer une polyphonie. Donc on peut, c'est un petit orchestre. Berlioz disait que c'était un petit orchestre. Voilà. Très capricieux, parce que c'est voilà, il y a un ambitus restreint, voilà, mais d'une grande richesse de par ses timbres. Donc c'est là aussi qu'on rejoint le chant, la voix, la vocalité, et du coup c'est tout un monde à créer. Et puis quand tu dis ben oui, peut-être que il y avait aussi dans la guitare corse un certain toucher, une certaine manière de dire les choses. Là récemment, je parlais avec un Argentin aussi, enfin, et même Yupanqui, Atahualpa Yupanqui a un toucher. Enfin, il y a toute une histoire derrière ben, Yupanqui, l'histoire de son pays, toutes les souffrances du pays, ou même tout simplement le souvenir ou la vie de ce pays. Et donc c'est important de le traduire aussi de par l'instrument. Je crois que c'est le rôle d'un musicien.
Quand on avait fait ce duo, il y avait une grande citation qui m'était restée imprise, je dirais, et que j'oublie maintenant.
Oui, moi j'aimais bien dire, pour chanter, donc c'est une citation d'un de ses poèmes, pour chanter ce que je ressens, je n'ai pas besoin de la voix, je me cache à l'intérieur de la guitare. Et pour le coup, bon, en tout cas, ça résonne énormément en moi, parce que voilà, je ne passe pas par la voix, mais par la guitare, pour voilà, après tout est possible à partir du moment où on trouve son voilà son filtre, ou je sais pas, et c'est on peut le faire.
Après, tu nous reparleras des arrangements de Thomas, et peut-être tu veux nous faire un autre air, peut-être que tu as arrangé, mais vraiment ces dissonances que tu incorpores au début, on a l'impression que tu t'es trompé, et puis en fait c'est un réel souhait délibéré, et ça fait penser un petit peu à la dissonance, à la résistance, je dirais, voilà. Un canto di avoca senza avoca.
C'est quoi une dissonance exactement?
C'est deux côtés, en fait,
dirait qu'elles n'aiment pas, mais en fait, elles disent quelque chose.
Ça me fait penser que, vous voyez, en peinture, par exemple, un trait irrégulier, c'est beaucoup plus intéressant qu'un trait régulier. Comme s'il y avait un double trait, vous voyez. Voilà. Et en poésie, parfois, un mot qui n'est pas approprié, d'un point de vue académique, eh ben, il a toute sa justification, justement, parce qu'il crée une sorte de dissonance. Pourquoi il y a des analogies, hein?
Alors, qu'est-ce que tu... C'était là.
Un texte.
Et un jour, vous avez parlé de plusieurs réacquistes en poésie. Ça aussi, vous le mentionnerez.
Il y a des gens plus qualifiés que moi pour en parler. Vous voulez un texte en français ou en corse? Parce que j'ai... En corse. J'étais zigour. Alors, justement... Zitiam, igantis gat, igantas gatinat. Lampa ianisem prestessa gansora. Pudia gambia o mondo. Pudia nasce i città e mora i paesa. Eda era sempre l'istesse. Era di passata dell'egiziana o greco, da o greca o latino e a tutti i lingue conosciuti. Conosciuti da poco. O da mondi, anche sti lingui verti a passo mal assicurato, con campagna nicche pa volontà di una manata. A miludia, edda, firmaia come dire. La via di volsuto modifica, e sera nimisa travadala, a renda più civili. Tutti diciani, l'avevamo intesa tante tanti volte. Ah va, femmo la vinita, sta litania. E così la viene a cantato in un scagno pugioso di a memoria andarina. Ma i scagni finiscono sempre per rapida e l'andaciane per vuta in isologa. 3 anni dopo, a Milodeia, era di ritorno, e tanto che i ganti sgattinati sono sparati. Là, il n'y a pas de doute, on parle bien d'une mélodie, et ça me fait penser à ce qui a été dit précédemment. Ces gens-là ont voulu l'arranger, la mélodie, elle était trop brute, elle était trop fruste, on a voulu la civiliser, on a voulu la polir. Et puis un jour, quelque chose de plus large, de plus rustre, de plus fruste est revenu et l'a emporté. Vous savez ce qui se passe en Iran en ce moment-là, en ce moment. L'Iran était auparavant l'un des pays les plus modernes. Quand on voit des photos des jeunes femmes, avant l'arrivée de Roménie, elles étaient habillées comme en Occident. C'est précisément cette modernité, peut-être un peu trop brusque, qui a généré ce que nous avons aujourd'hui. C'est pas que je justifie cette réaction, mais je pense pouvoir me l'expliquer comme ça. Parfois, la modernité qui rentre à pas cadencée, très rapidement, elle peut générer une drôle de réaction.
Ben, ça, c'est Olamin Toudioutré. Et en fait, c'est parce que j'ai une commande d'un éditeur pour faire un arrangement d'air traditionnel. Donc là, c'est des duos de guitare. C'est pour duo de guitare ou duo instrument mélodique et guitare. Donc il y a 11 airs traditionnels dedans, piochés comme ça, dont celui-là. Mais du coup, par rapport à Henri Thomas, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Après, voilà, mais c'est toujours la difficulté, je trouve, de passer du traditionnel ou du populaire au classique. Mais on perd certaines choses, ou alors on fait rentrer beaucoup dans un cadre, ne serait-ce que par le fait que ça soit mesuré, qu'on met des mesures voilà, bien déterminées. Donc, d'un côté, c'est bien parce qu'on fait des métissages, je dirais, on fait des passerelles, et puis de toute façon, la musique vient du populaire et vient voilà, de la vie quotidienne, je dirais. Mais après, il faut avoir conscience que ce n'est pas l'essence, c'est autre chose. C'est une réadaptation, c'est une réécriture, c'est un regard d'une personne sur le traditionnel. De la même façon que Miguel Llobet, un guitariste, a arrangé des airs traditionnels catalans, mais c'est sa lecture de cette musique.
Non, mais là, je trouve que ce qui est beau, c'est que tu le fais sans emphase. Après, du Tomasi, qui était mesuré en son temps, je dirais, parce que peut-être que toi, tu mesures différemment aujourd'hui, avec de l'emphase et du... Ben, c'est trop, quoi, voilà.
Alors,
je sais plus. C'est pour ça que je l'ai posé avant, quand j'y ai pensé.
Alors, tu m'as parlé de rire.
Ah oui.
Bon, encore une fois, je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent mieux que moi. Moi, je vais donner mon avis sur les deux riaquistes. Alors, pour moi, il y a un premier riaquiste qui apparaît au milieu des années 70. Et on peut le caractériser comment ? Sur le plan littéraire. Eh bien, c'est une volonté d'introduire de la modernité dans la forme, sur le plan de la poésie, tout en respectant les sources d'inspiration, mais aussi en les dépassant. Hein, je m'explique. Moi, la poésie corse que j'ai découvert au tout début des années 70, elle ne m'enchantait pas. Hein. Ce que j'ai lu, j'accrochais pas, quoi. Je me disais, c'est une poésie qui est trop ancienne, c'est trop tournée vers le passé, c'est la grand-mère qui file la laine au coin du feu, enfin, des trucs comme ça. Bon, ça m'embêtait un peu. Par contre, lorsque j'ai découvert quelques années plus tard les écrits de Jacques Thiers, Jacques Fouzine, Patricia Gotache, Lucie Santouche, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est une poésie contemporaine, vraiment contemporaine. Et qui aborde qui peut aborder des thèmes traditionnels, mais qui aborde aussi des termes beaucoup plus généraux, beaucoup plus incongrus. Et là, on est en présence du premier réacquiste. Autre chose aussi, il y a un optimisme dans ce premier réacquiste, c'est-à-dire tous ces jeunes auteurs semblent un petit peu émerveillés que cette langue, certes. Elle claudique un peu, même parfois. Elle existe encore. Et moi aussi, je me disais, on a chien. Bon, moi aussi, je la parle. Je ne sais pas encore l'écrire, mais je la parle. Et j'étais content. Et ils avaient l'air très contents, très heureux, très optimistes. D'ailleurs, les textes de cette époque sont optimistes et généreux. Ah, ça a duré jusqu'à, je dirais, à peu près les années 90. Le climat s'est assombri pour mille et une raisons. D'autres générations sont arrivées et le second réacquiste, il est beaucoup plus interrogatif, beaucoup moins optimiste, et il met plus l'accent sur ce qui est noir dans notre société. Ce qui est noir, voilà, on le voit plus clairement, l'horizon, comme on le voyait auparavant. Alors bien, maintenant, il faut tempérer un petit peu ce que je viens de dire. Ça, c'était un peu brut de fonderie, parce qu'il y a des gens du premier réacquiste qui existent encore au second réacquiste. Hein. Mais on peut observer ce basculement même chez eux.
Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, tu dis que le premier réacquiste, c'était une volonté d'introduire la... enfin, en tout cas, une certaine forme de contemporanéité dans les formes poétiques. Ça veut donc dire que le réacuste musical aussi, on ne peut pas réellement l'accuser de ne pas avoir été un renouvellement de la tradition. Il l'a été en partie, traductor et traditor, et, le fait qu'on ait traduit ce qui nous a précédé ne voulait pas forcément dire qu'on l'a bien traduit. Quoi qu'il en soit, on a injecté pour l'expression et pour l'expression notamment d'idées politiques, en même temps que l'on chantait, sont intervenus des instruments, des arrangements et tout qui ont changé le sens. Mais il y a une autre partie de recherche, de collectage. Et quand le collectage s'arrête au collectage, il ne trahit personne. Hein, donc je pense au travail de Wojciech. Après, dès lors qu'on essaye de rechanter ce qui a été collecté, plus on introduit de voix, aussi bien des voix instrumentales, etc., plus c'est complexe. Et plus le temps passe, et plus on s'éloigne. Il y a une autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est que tout ça me semble bien complémentaire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'il y a une question? Mais attention, question intéressante. En moins de 2 secondes. Moi, je dis que c'est juste la première journée d'études. C'est une longue série de journées d'études. Merci à Sébastien Queneau. En fait, moi, j'avais pensé mettre 4 personnes le matin, 6 personnes l'après-midi. On est 60. Mais c'est peut-être un creuset qu'il fallait faire avec des questionnements et des dynamiques. Voilà. N'ayons aucun regret et que des encouragements. Merci à l'équipe ICAV et rendez-vous demain à Ajaccio pour le colloque du CNRS des DAL. Je laisse la parole à Sébastien. Sébastien, tu veux dire quelque chose? Tu veux nous chanter quelque chose? Sébastien.
Merci. Pierre. Oui. Sur le programme, c'est ton nom. Allez. Donc, je te laisse conclure cette belle journée.
Bon, salut à toutes et tout petit. Mais du coup, je vais faire ça vite parce qu'en plus, je sais pas très bien faire, je suis pas très à l'aise et je me mets au milieu et je fais vite. Du coup, je suis très content d'avoir assisté à cette journée. Il s'est passé plein de choses. Ça a encore une fois montré la richesse de la culture corse. Moi, à titre personnel, par exemple, le livre de Petru m'avait beaucoup touché et je l'avais fini en revenant justement sur le bateau d'un voyage en Corse. Et du coup, à partir de là et tout ce qui a découlé, j'étais vraiment très content de l'entendre. Il y a eu vraiment beaucoup de choses dans tous les sens. Les tables rondes de l'après-midi étaient belles aussi. Voilà, je donne rendez-vous demain. On pourra redévelopper tout ça à Ajaccio. Et peut-être en 2 mots, parce que je présente vite fait le programme. Donc le programme ICAR, c'est un projet d'accélération porté par du coup le CNRS. C'est le projet DEDAL en particulier. On s'intéresse aux alternatives. Et du coup, pourquoi la Corse? De façon, c'est d'abord parce que ça reste une alternative vue du continent, quoi qu'il arrive. Parce que de toute façon, à part Paris et l'ancien domaine royal, tout est une alternative. Même nous, par exemple, dans l'équipe, on est de province, donc du sud-ouest, ou de Savoie et de Belfort. Et ce qu'on étudie sur nos terrains, ce sont aussi des alternatives. Et aussi, dans une culture corse constituée, on essaye de voir ce qui peut faire alternative aussi. C'est-à-dire que c'est ce qui fait autre, en fait. Et on essaye de relier les deux au sens où on cherche ce qui est... comment faire autrement, à la fois à l'intérieur et aussi quand on regarde plus grand. Parce que justement, je me suis dit, je voulais citer ça, c'est Tony Casalong qui a cité ici, à l'université, à l'occasion d'un colloque sur l'art en ruralité. Il a cité un écrivain portugais qui dit « L'universel, c'est du local sans les murs ». Et je me dis, quand on recherche cet autre, quelque part, c'est un peu ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Genre, quand on essaye à chaque fois de passer sur le macro et ensuite de retomber, on essaye de rechercher ces dynamiques et au final, on retrouve toujours quelque chose du commun dans ces dynamiques. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là-dessus. J'avais d'autres trucs, mais ce sera pour demain.
Et voilà. Tu es qui, Pierre Génard? Pierre Génard, tu es qui? Tu t'es pas présenté? Il est chercheur au sein du projet de recherche des dalles. Voilà, je le présente pour lui parce qu'il n'a pas fait. Bravo.
Merci. À demain.